Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, il est toujours nécessaire de revenir aux fondements, aux choses primordiales, que ce soit en ce qui concerne notre existence, comme en ce qui concerne l'Évangile. En ce qui concerne notre vie, la parole de Dieu nous avertit avec beaucoup de force. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est aussi pour cela qu'il nous faut chercher le Seigneur et sa parole et sa volonté pour notre vie avant toute chose. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et en ce qui concerne la prédication de la parole de Dieu, la prédication de l'Évangile, il en est de même. Le fondement doit toujours nous être rappelé et il nous faut toujours y revenir pour notre bénédiction ici-bas comme notre salut éternel, ce que nous ne voulons pas manquer de faire aujourd'hui. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, voici encore un témoignage authentique qui nous est rapporté par le docteur Eben Alexander, neurochirurgien, professeur de médecine, qui ne croyait pas en l'au-delà, ni à ces étonnantes expériences de vie après la vie, encore appelées EMI, expériences de mort imminente, rapportées par des milliers de personnes qui se sont trouvées en situation de quasi-mort clinique, mais en sont revenues. Comme beaucoup de ses collègues, il était convaincu de détenir une solide explication scientifique à ces phénomènes, explication qui réduisait à néant ce qu'il considérait être une illusion créée par le cerveau en état d'extrême souffrance, de la même manière que l'on peut avoir des illusions d'optique. Mais aujourd'hui, le docteur Eben Alexander est absolument certain, en tant que scientifique, de la réalité de cette vie après la vie, tout simplement parce qu'il l'a lui-même expérimentée. En 2008, il a vécu ce qu'il avait toujours pensé ne pas exister. Cela l'a conduit à écrire en fin 2012 un livre consacré à cette expérience, Proof of Heaven, A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife, traduit en français en 2013 sous le titre La preuve du paradis, voyage d'un neurochirurgien dans l'après-vie. Et à entreprendre une campagne, entre guillemets, d'information, notamment auprès de ses pairs dans le monde de la médecine. Avant même la parution de son livre, le grand magazine Newsweek International lui demandait de rédiger un premier article de 4 pages, suivi d'un second de 3 pages, fait exceptionnel. Le professeur Alexander, marié, père de 2 enfants, médecin depuis 33 ans, pratique la neurochirurgie depuis plus de 25 ans et a enseigné sa spécialité pendant 15 ans à la faculté de médecine de la prestigieuse université d'Harvard. Comme beaucoup d'Américains, il se disait chrétien. Mais, précise-t-il, j'étais chrétien de nom, plus que de conviction. Je n'avais rien contre ceux qui veulent croire en Jésus, que Jésus a été plus qu'un simple homme, un homme bon qui a souffert aux mains des hommes. J'éprouvais une profonde sympathie pour ceux qui veulent croire qu'il existe quelque part un Dieu qui nous aime. En réalité, j'enviais ces gens pour la sécurité que leur apportaient sans conteste ces croyances. Mais en tant que scientifique, j'en connaissais tout simplement assez pour ne pas y croire réellement moi-même. Mais tout cela s'effondre le 10 novembre 2008. À 4h30 du matin, Eben Alexander est réveillé par de violents maux de tête et une vive douleur au bas de la colonne vertébrale. Dans les heures qui suivent, la souffrance augmente, gagne tout son corps qui se paralyse et il sombre rapidement dans l'inconscience avant d'être victime d'une crise d'épilepsie tonico-clonique. Transporté en début de matinée à l'hôpital de Lynchburg, celui où il travaille lui-même en Virginie, il y est pris en charge par ses condisciples alors qu'il sombre dans un coma de plus en plus profond. L'analyse des symptômes est très vite confirmée par les premiers examens. Le docteur Alexander est victime d'une méningite foudroyante, d'une forme rarissime chez les adultes, 1 cas sur 10 millions. Inexplicablement, des bactéries Escherichia coli sont parvenues à franchir la barrière protectrice du cerveau, se sont multipliées dans le liquide cérébro-spinal et se sont mises à attaquer son cerveau. Un mal mortel en quelques heures dans la quasi-totalité des cas. À l'heure où j'étais transporté dans le service de réanimation ce matin-là, mes chances de survivre dans un état meilleur que végétatif étaient déjà très faibles. Et en quelques heures, elles atteignaient presque le point zéro, a-t-il ensuite expliqué au magazine Newsweek. Ces derniers mots compréhensibles, clairement entendus au milieu de ces gémissements par l'équipe médicale qui s'acharnait à le maintenir en vie depuis 2 heures, furent « Dieu, aide-moi, un cri trois fois répété. Mais dès lors, ses fonctions vitales s'éteignent une à une et doivent être palliées par les équipements de réanimation. Et, résume-t-il, en quelques heures, tout mon cortex, cette partie du cerveau qui commande la pensée, les émotions et qui, en essence, fait de nous des êtres humains, était éteint. Pendant 7 jours, je suis resté dans un coma profond, le corps inerte, et toutes mes fonctions cérébrales supérieures totalement anéanties. 7 jours durant, l'équipe médicale du service de réanimation de l'hôpital de Lynchburg lutte pour maintenir une étincelle d'existence dans ce corps sans vie, comme le révèlent tous les scanners du cerveau et les autres examens neurologiques les plus pointus. Or, chaque heure qui passe, a fortiori chaque jour, réduit un peu plus ses possibilités de revenir à la vie. Puis, écrit Eben Alexander, au matin de ma 7e journée d'hospitalisation, alors que les médecins envisagent d'arrêter les soins, j'ouvre brusquement les yeux et tout aussi inexplicablement, extraordinairement au sens littéral du mot, il récupère au fil des jours toutes ses capacités. Dans les mois qui suivent, tout en reprenant son travail de neurochirurgien, il examine minutieusement en spécialiste toutes les données médicales de sa propre hospitalisation, de ces 7 jours dont il n'a eu aucune conscience. Car si les lignes qui précèdent résument à très grands traits le versant événementiel et médical de sa terrible expérience, il est un autre versant qu'il est le seul à connaître et qui bouleverse sa vie au-delà de tout ce qu'il aurait pu penser une semaine plus tôt. Parvenu à l'extrême bord de la mort au cours de ses jours, le docteur Alexander a donc vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Il a pénétré dans ce monde de la vie après la vie, contenté de décrire tant d'hommes et de femmes qui en ont aussi vécu de semblables. Il serait bien trop long d'évoquer dans le cadre d'un article la description qu'il en fait dans son livre sur des pages et des pages, description elle-même pourtant très résumée, partielle, comme il l'explique, et dite avec des mots tellement insuffisants pour rendre compte d'un autre monde, d'une réalité infiniment plus grande que celle où nous enferme ce monde-ci et ses limites. Ne peut-on pas reprendre ici les mots que l'apôtre Paul écrivait dans sa 2e épître aux Corinthiens au chapitre 12 ? Je connais un homme qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou hors de son corps, je ne sais, mais Dieu le sait. Je sais seulement que cet homme, dans son corps ou hors de son corps, je le sais, Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de répéter ou, selon une autre compréhension du texte, que l'on ne saurait redire. Il convient d'ailleurs, comme pour tous les récits d'Emmy, de distinguer dans celui du docteur Alexander ce qui relève des choses vécues, les données factuelles, de ce qu'est interprétation et conclusion personnelle, théologique ou autre qu'il en tire. L'on peut résumer ce qu'a vécu Eben Alexander par les mots simples qu'il emploie lui-même. L'entrée dans un monde de paix, de joie, de pureté, de lumière, d'amour indicible, inexprimable. Des réalités vues, entendues, perçues, vécues avec une force, une acuité, des perceptions sans égale sur la terre, tout le contraire de vagues sensations et de rêves confus. Des réalités si intenses qu'elles se sont gravées dans sa mémoire, de façon encore plus vive, dit-il, que le souvenir des événements les plus forts de sa vie, tels ceux de son mariage ou de la naissance de ses 2 fils. L'endroit où je me suis rendu était réel, écrit-il, d'une réalité qui fait ressembler cette vie-ci à un simple rêve. Mais ce qui a également bouleversé la vie du docteur Alexander, c'est que cette expérience hors du commun lui a donné une raison scientifique de croire à la vie après la mort, lui qui pensait avoir toutes les raisons scientifiques de croire le contraire. Comme beaucoup de ses collègues, il était persuadé que c'est le cerveau qui produit la conscience, le physique qui produit le psychique. Il a découvert que la conscience existe indépendamment de l'activité cérébrale, que la vie existe en dehors du corps. Il n'existe aucune explication scientifique au fait que, alors même que mon corps était dans le coma, mon esprit, le moi conscient et intérieur, était bien vivant. Alors que les neurones de mon cortex étaient réduits à une inactivité totale par les bactéries qui les attaquaient, mon être conscient, en dehors de mon cerveau, a voyagé dans une dimension autre, plus vaste de l'univers. Une dimension dont je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse exister. Dont je n'aurais été auparavant, avant mon coma, que trop heureux d'expliquer qu'elle était tout simplement impossible. tous les principaux arguments utilisés pour contredire les expériences de mort imminente disent qu'elles résultent d'un mauvais fonctionnement du cortex, qu'il soit partiel, transitoire ou minimal. Cependant, mon ami n'est pas survenu quand mon cortex fonctionnait mal, mais alors qu'il ne fonctionnait plus du tout. Les résultats des CT scans, tomodensitogrammes et des divers examens neurologiques, de même que la durée et la sévérité de ma méningite, le prouvent clairement. Selon la conception médicale actuelle, il est absolument impossible que j'ai pu avoir ne serait-ce qu'une conscience floue et limitée durant mon coma. Combien moins, a fortiori, l'odyssée d'une hyperacuité et d'une totale cohérence que j'ai connue. Il m'a fallu des mois pour faire le tour de ce que j'ai vécu. Non seulement de l'impossibilité médicale, du fait que j'ai été conscient durant mon coma, mais ce qui est bien plus important, de tout ce que j'ai vécu durant ce temps. Beaucoup pensent aujourd'hui que les vérités vivantes de la foi ont perdu leur force et que c'est la science, non la foi, qui détient le chemin de la vérité. Avant mon expérience, j'avais moi-même fortement le sentiment qu'il en était ainsi. Mais maintenant, j'ai compris que cette façon de voir les choses est bien trop simpliste. Je suis toujours aussi totalement médecin et homme de science qu'avant mon expérience. Mais au tréfonds de moi-même, je suis une personne très différente de celle que j'étais auparavant. Qu'est-ce que ce voyage dans le monde de Dieu a changé dans la vie du docteur Alexander ? Tout. Son regard sur la vie, la mort, les autres, Dieu et sa parole. Et la foi, bien sûr. Ainsi qu'il l'écrit, chaque moment vécu dans l'Église est désormais revêtu d'un sens nouveau, comme un écho des réalités entrevues « là-bas », entre guillemets. Ce monde plus vaste, plus réel, a-t-il écrit pour Newsweek ? Ceux qui en parlent ne sont ni victimes d'illusions, ni malhonnêtes, mais ils sont handicapés par les limites du langage pour traduire la grandeur exponentielle de ce qu'ils ont rencontré. Voilà un témoignage. Témoignage de la réalité de l'au-delà. Cet au-delà auquel la parole de Dieu nous appelle à nous préparer. Et je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9 et au verset 22. Où nous lirons simplement une partie du verset, la dernière, une seule phrase. Là, il est écrit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon ». Prions. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es encore ce Dieu vivant, tout-puissant, agissant, au-delà de tout ce qu'on peut dire et de tout ce qu'on peut concevoir. Nous te remercions de ce que, tout en même temps, tu es un Dieu d'amour et de grâce, un Dieu de compassion et de miséricorde, et que ton désir est que chacun et chacune d'entre nous soit puissamment et parfaitement sauvé. Et merci parce que tu veux agir aussi dans ce sens, dans ces moments même que nous partageons, Seigneur, autour de ta parole. Merci pour l'œuvre de ton esprit que tu accomplis encore, Seigneur. Et merci parce que tu veux là encore te manifester, te révéler et te glorifier. Sois béni notre Dieu. Amen. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit notre texte. Pardon. Je vais vous décrire trois fous. Le premier est un soldat. Il a été grièvement blessé sur le champ de bataille. Il est tout près de la mort. Le médecin arrive à côté de lui et il pose une question à ce médecin. Écoutez, jugez sa folie. Quelle question pose-t-il ? Lève-t-il les yeux avec anxiété pour demander si sa blessure est fatale ? Si l'habileté du médecin pourra obtenir la guérison, si les remèdes nécessaires sont disponibles. Non, rien de la sorte. Étrangement, il demande « Pourriez-vous me dire par quelle sorte d'arme j'ai été blessé ? Quel est le nom de l'adversaire qui m'a ainsi grièvement atteint ? Je veux connaître minutieusement toutes les circonstances exactes de ma blessure. » Cet homme délire, allons lui dire. Son cerveau est extrêmement atteint. Certainement, de telles questions à un tel moment sont la preuve qu'il est hors de sens. Mais voici un autre fou. La tempête fait rage, le bateau fuit impétueusement devant l'ouragan, les nuages sombres filent rapidement dans le ciel, les mâts craquent sinistrement, les voiles sont en lambeaux, et cependant, la tempête devient plus terrible encore. Où est le capitaine ? Est-il affairé sur le pont ? Est-il courageusement en train de faire face au danger ? Est-il sagement en train d'ordonner des moyens pour s'en protéger ? Non, mes amis, il s'est retiré dans sa cabine. Et là, il est en train de se creuser les méninges pour rechercher l'endroit où cette tempête s'est créée. « Comme ce vent est mystérieux, dit-il, personne jusqu'à présent n'était capable de découvrir son origine. » Et ainsi, sans se soucier du navire, de la vie des passagers, de la sienne propre, il ne prend de soin qu'à résoudre cette curieuse question. Cet homme est fou, qu'on le décharge de ses responsabilités, qu'on l'empêche d'avoir accès à la barre du navire et de jamais reprendre le commandement d'un tel bâtiment. Il est fort possible que le troisième fou, se trouve parmi mes auditeurs aujourd'hui. Il est atteint, souffrant de toutes sortes de façons, de toutes sortes de dommages dans son existence à cause du péché. Il est dans la tempête, l'ouragan du châtiment divin ou de la malédiction suivant ses fautes. Et cependant, sa question est aujourd'hui, mais où est le mal en moi? Quelle est son origine? C'est un insensé, spirituel, parce que ce n'est pas la question qu'il se poserait s'il était dans un état d'esprit raisonnable. La question serait, comment puis-je être débarrassé de ce mal? Et non pas, comment es-tu venu dans le monde? La question ne serait pas, comment se fait-il que ce jugement descende du ciel comme sur Sodome? Mais la question serait, comment pourrais-je y échapper, comme Lot a pu le faire? La question ne serait pas, comment se fait-il que je sois malade? Mais elle serait, y a-t-il des médicaments pour me guérir? Y a-t-il un médecin qui soit capable de rendre la santé à mon âme et à mon corps? Ah, que de gens qui s'amusent avec des détails, des subtilités, et qui négligent les choses importantes et certaines. Des hommes se sont torturés le cerveau pour savoir ce que l'homme ne pourra jamais connaître. Comment le mal est-il venu dans le monde? Comment son apparition peut-elle concorder avec la bonté divine? Alors que leur question devrait être, comment puis-je échapper à ce mal et ses tristes conséquences dans cette vie et dans l'éternité? Et pour répondre à cette question, notre verset se trouve juste au milieu du chemin, comme l'ange avec son épée qui arrêta Balaam qui se rendait chez Balak. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Remarquez que ce n'est pas là un proverbe ou une maxime juif, c'est une vérité mondiale, éternelle. C'est quelque chose qui n'appartient pas seulement aux Hébreux, mais tout autant à ceux qui ne le sont pas. À aucune époque, en aucun lieu, pour aucune personne, il peut y avoir, il n'a pu y avoir de rémission des péchés sans effusion de sang. C'est là une de ces lois essentielles, un de ces principes fondamentaux qui font partie du gouvernement de Dieu sur la création et qui ne peut être ni enlevé ni nié. Il ne peut y avoir aucune exception, il demeure le même dans tous les âges. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il en était ainsi pour les Juifs. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon pour eux. Certaines choses dans la loi juive pouvaient être purifiées dans le feu ou dans l'eau, mais pour le péché en lui-même, il n'y avait pas de purification en dehors du sang. Et même les païens semblaient avoir une notion de cela lorsqu'on voit les costumes de leurs prêtres et sacrificateurs dégoûtant du sang de leurs victimes offertes aux idoles. Et on a pu entendre des histoires horribles d'holocaustes, sacrifices humains. Et cela ne signifie-t-il pas que là, au plus profond du cœur de l'homme, il y a cette grande vérité qui est inscrite et qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais avant de nous étendre un peu sur notre texte, il nous faut décrire cette effusion de sang dont il est question là. En effet, il est question d'une effusion de sang particulière. Tout d'abord, par le grand prix du sang qui a été versé. Et nous ne parlerons pas là de massacres, de meurtres et de fleuves de sang provenant de brebis et de béliers. Il y a eu un jour une effusion de sang qui dépassa infiniment toutes les autres en valeur et en efficacité. C'est un homme, un Dieu, qui versa son sang en ce jour mémorable. Venez et voyez, voici un jardin sombre et triste. Le sol est dur à cause de la froideur de minuit. À travers l'ombre des oliviers menaçants, je peux voir un homme qui agonise en prière. Venez et voyez. Voyez son front. Des gouttes de sang coulent sur son visage. Et sur son corps, tous les pores sont ouverts et il transpire. Mais pas de cette transpiration de l'homme qui gagne son pain à la sueur de son front. C'est la transpiration de celui qui travaille pour le ciel. Il coule sur lui une sueur mêlée de sang. C'est là l'effusion de sang, sans laquelle il n'y a pas de pardon. Suivez cet homme plus loin. Ils l'ont arraché avec des mains sacrilèges du lieu de sa prière et de son agonie, et ils l'ont emmené au palais de Pilate. Ils le mettent sur un siège et se moquent de lui. Un manteau de pourpre est mis sur ses épaules en raillerie. et voyez son front, sur lequel ils ont enfoncé une couronne d'épines, et le sang qui coule sur ses joues. Ah, le sang qui coule sur ses joues. Mais enlevez le manteau de pourpre un instant, car son dos est tout lacéré, tout sanglant. Ah, les démons savent qui a fait cela. Ils ont levé les bannières barbelées, toutes dégoûtantes de sang encore. Ils ont battu et déchiré sa chair, en faisant rouler de ses épaules comme un ruisseau de sang. C'est là l'effusion de sang, sans laquelle il n'y a pas de pardon. Mais nous n'avons pas fini, car il le traîne dans les rues, il le jette à terre, il cloue ses mains à la barre transversale, les pieds sur le pieu central. Il les lève dans l'air, il le laisse retomber dans le trou avec une secousse brutale, il le cale, et le voici pendu, le Christ de Dieu. Du sang coulant de sa tête, du sang coulant de ses mains, du sang coulant de ses pieds, dans une agonie indicible, la vie s'en va dans le sang. Ah, les souffrances de son âme qui s'expriment dans ses paroles. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et ensuite, regardez, il perce son côté. Et voici qu'en sortent du sang et de l'eau. Ah, c'est là l'effusion de sang, cette terrible effusion de sang sans laquelle, pour vous et pour moi et pour toute la race humaine, il n'y a pas de pardon. Et c'est là un récit qui devrait nous faire pleurer chacun. Et si ce n'est pas le cas, c'est certainement parce que cela n'a pas été raconté comme il aurait fallu, mais c'était aussi à cause de la dureté du cœur. Il est vrai que si nos cœurs étaient durs comme du marbre, nous verserions des larmes de chagrin et d'émotion, mais ils sont plus durs que la meule inférieure. Et cependant, le principe demeure. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans notre passage, il y a deux choses. Tout d'abord, l'expression d'une négation. Pas de pardon sans effusion de sang. Ensuite, un point grandement positif. Avec l'effusion du sang, il y a le pardon. Voici donc les deux chapitres de la suite de notre méditation. Tout d'abord, vous avez là l'expression d'une négation. Voici un passage qui est absolu et d'autorité divine. Il n'y a pas moyen de discuter avec ce passage. Ce n'est pas une de ces choses que vous pouvez croire ou dont vous pouvez douter indifféremment. Ce n'est pas juste une opinion. Ce passage doit être reçu et cru. Autrement, vous niez les Écritures et vous vous détournez de Dieu. Il y a certaines vérités qu'on peut dire, prononcer, qui n'ont pas beaucoup plus de base que nos propres raisonnements, nos propres déductions, qui ont peu de valeur. Mais ce passage est d'autorité divine, il vient des lèvres de Dieu lui-même. Il est écrit en grandes lettres, « Il n'y a pas de pardon ». Peut-être en est-il qui critiqueront ce passage, qu'ils se souviennent que leur rébellion n'est pas contre un homme, ni même un prédicateur, mais contre Dieu. Et si ici quelqu'un rejette cette vérité, nous ne discuterons pas, nous ne détournerons pas de proclamer l'Évangile pour disputer avec des hommes. C'est sur une décision irrévocable de Dieu qu'il nous faut insister maintenant. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Considérez ensuite combien ce passage est décisif dans son caractère. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Certains diront, mais mes péchés ne peuvent-ils pas être pardonnés par ma repentance ? Si je pleure et que je plaide et que je prie, Dieu me pardonnera-t-il pas pour le compte de mes larmes ? Pas de pardon, dit le passage, sans effusion de sang. Mais si je ne pêche plus jamais et que je serve Dieu dès aujourd'hui avec plus de zèle que les autres hommes, ne me pardonnera-t-il pas à cause de mon obéissance ? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais ne puis-je pas croire que Dieu est rempli de miséricorde et de pardon et qu'il me pardonnera sans effusion de sang ? Non, dit notre texte, sans effusion de sang, il n'y a aucun pardon. C'est un passage qui coupe et enlève toutes nos fausses espérances. Apportez toutes vos espérances ici, et si elles ne sont pas basées sur le sang et marquées du sang, elles sont aussi inutiles que des châteaux en Espagne ou des rêves de la nuit. Notre texte nous dit très clairement qu'il n'y a pas de pardon. Et pourtant, les hommes vont chercher le pardon par 50 autres moyens et chemins. Mais les hommes peuvent faire dire ce qu'ils veulent. Ils seront aussi loin du pardon quand ils auront fait de leur mieux qu'avant même de commencer. Et c'est pourquoi il nous faut avoir foi dans le sang versé par Christ. Et puis en troisième, considérez combien ce passage est universel dans son caractère. Comment ne puis-je pas avoir le pardon sans que le sang soit versé, dit le roi. et il s'avance avec sa couronne sur la tête. « Ne puis-je pas, avec tous mes habits d'apparat, avec une précieuse rançon, recevoir le pardon sans le sang verser ?»« Non, est la réponse, non absolument. » Mais voici que s'avance un homme sage, avec toutes sortes de diplômes, de titres à son nom. « Ne puis-je pas avoir le pardon des péchés à cause de ces grands titres qui sont des preuves de ma connaissance, de mon érudition, de mon comportement exemplaire ?»« Non, non. » Et puis voici qu'arrive le bienfaiteur, qui a accompli beaucoup de bonnes œuvres sur la terre. J'ai donné mon argent aux pauvres. Je me suis moi-même tant dépensé pour les secourir. N'aurais-je pas le pardon ? Aucun, dit le texte. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ah, comme un tel passage met tout le monde au même niveau. Les nobles ne sont pas plus que les roturiers, les maîtres pas plus que les serviteurs, les patrons pas plus que les ouvriers et les pasteurs pas plus que ceux qui les écoutent. Pas d'espoir pour le meilleur. Pas plus que pour le pire, sans cette effusion de sang. Ah, j'aime cet évangile, entre autres parce qu'il met tellement tous les hommes au même niveau. Et c'est pourquoi les misérables de la terre, ceux qui sont remplis de toutes sortes d'impuretés et de misères, sans bonne naissance, sans bonne éducation, peuvent venir, aussi bien que ceux qui sont nobles, honorables, titrés et puissants. Le texte est universel. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Remarquez encore combien notre texte est perpétuel. Paul dit, l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de pardon. Il faut également répéter ce témoignage. Et même si des milliers d'années passées, un serviteur de Dieu se tenant dans ce lieu, dans très longtemps, dirait la même chose. Ça ne changera jamais. Mais si, dira quelqu'un, un tel prend l'argent et il fait sortir l'âme du purgatoire. Ceci n'est qu'une prétention parce que l'âme n'y a jamais été en réalité. Il peut y avoir toutes sortes d'histoires et d'imaginations, mais il n'y a pas de véritable pardon sans le sang de Christ. Aucun pardon, même si vous vous consumez dans la prière. Aucun, même si vous fondiez complètement à cause de vos larmes. Aucun, même si vous pleuriez et gémissiez jusqu'à ce que votre cœur se brise. Jamais dans ce monde et jamais dans celui qui est à venir, le pardon des péchés ne pourra être obtenu sur une autre base que le rachat par le sang de Christ et la foi placée en Christ pour qu'il conduise la vie de celui qui se tourne ainsi vers lui. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais nous voici à notre deuxième grand chapitre. S'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, ceci signifie, malgré tout, qu'il y a le pardon avec cette effusion de sang. Le pardon est aujourd'hui un grand fait qui est pleinement valable à cet instant même. Puisque le sang a été versé, le pardon a été obtenu. Nous sommes allés ensemble au jardin de Gethsémané pour voir l'effusion de ce sang. Il faudrait que nous allions dans un autre jardin, sur une autre montagne, pour montrer la grande preuve du pardon. Cette preuve qui se trouve au jardin du tombeau de Joseph d'Arimathée, c'est un autre jardin, mais rempli des parfums de souvenirs excellents et heureux. C'est dans ce jardin, si calme, loin du souci du monde, que Joseph d'Arimathée avait fait creuser cette tombe dans laquelle il pensait que son corps un jour reposerait. Mais c'est là que Jésus fut déposé, après sa crucifixion. Il a été livré en rançon pour nous tous. La loi divine avait demandé son sang. Sa mort l'avait retenu de sa poigne puissante. Cette tombe était en fait comme le cachot de sa captivité quand, comme le bon berger, il avait livré sa vie pour les brebis. Et pourquoi y a-t-il maintenant un tombeau vide et désert ? Ah, parce que la dette est payée, les péchés sont couverts, la rémission est obtenue. Et comment ? Le grand pasteur des brebis a été ramené de la mort par le sang de l'Alliance éternelle. Et en lui, nous avons maintenant la rédemption par son sang. Voici la première preuve. Une autre évidence, l'œuvre accomplie au Mont des Oliviers. Oh, les promesses admirables qu'il donne à ceux qui croient en son nom. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et c'est là qu'il s'est élevé vers la gloire. et qu'il était entré dans le lieu très saint, non pas avec le sang des taureaux et des boucs, mais avec son propre sang, pour se tenir devant Dieu comme avocat en faveur de tous ceux qui se confient en lui. Ah, il nous faut recommander l'excellence de cette effusion de sang pour le pardon des péchés de tout homme. Mr. Innes était un grand serviteur de Dieu, écossais, qui un jour visitait un incrédule âgé sur son lit de mort. Quand il vint pour la première fois, celui-ci lui dit « Mr. Innes, je me confie dans la miséricorde de Dieu, il est plein de miséricorde, il ne damnera pas un homme à toujours. » Peu de temps après, Mr. Innes alla le voir à nouveau. Il était plus près de la mort. Il dit alors « Oh, Mr. Innes, toute mon espérance est partie, car j'ai réfléchi que si Dieu est miséricordieux, il est juste aussi. Et si au lieu d'être miséricordieux envers moi, il était juste envers moi, que deviendrais-je ? Il me faut abandonner mon espérance dans la miséricorde de Dieu. Dites-moi comment être sauvé. » Mr. Innes lui dit que Christ était mort pour porter le péché de tous les croyants, que Dieu pouvait être juste et rendre juste celui qui confiait sa vie en Christ. « Ah !» répondit cet homme, « je vois qu'il y a quelque chose de solide en cela. Je veux me confier en lui. Je ne puis pas me reposer sur rien ni personne d'autre. Je ne veux pas le faire plus longtemps. » C'est un fait remarquable que jamais vous ne trouverez un homme qui ait l'assurance de son salut et du pardon de ses péchés en dehors du sang de Christ. Parlez à un musulman, jamais il n'a de certitude concernant le pardon de ses fautes. Parlez à un incroyant, il ne sait jamais si ses péchés sont pardonnés. Parlez avec un légaliste, il vous dira « j'espère qu'ils sont pardonnés, mais il ne prétend pas qu'ils le sont. Il n'y a que Christ qui puisse sauver par son sang répandu, par l'effusion de son sang. » Laissez-moi vous décrire comment Christ peut sauver des âmes. Et là, je voudrais vous parler de la conversion du frère de Whitefield. On connaît Whitefield, cet homme de Dieu remarquable, qui a beaucoup été utilisé du temps de John Wesley également. Pardon. Mais voici ce qui s'est passé pour son frère, qui s'était beaucoup éloigné de Dieu pendant son existence, malgré les manifestations de la puissance de Dieu au travers du ministère de son frère. Mais un jour, il fut puissamment touché par l'Esprit de Dieu. Il avait entendu son frère prêcher le jour précédent et il se sentait extrêmement misérable. Assis donc, en train de prendre le thé, il dit « Je suis un homme perdu ». Il gémissait, ne pouvait absolument plus ni manger ni boire. Une femme de Dieu qui était assise en face de lui dit « Qu'avez-vous dit, Mr. Whitefield ?»« Madame, dit-elle, je suis un homme perdu. »« Je m'en réjouis, dit-elle, j'en suis très heureuse. »« Mais madame, comment pouvez-vous parler ainsi ? C'est cruel de votre part d'être heureuse que je sois perdu. »« Je répète, monsieur, dit-elle, j'en suis extrêmement réjoui. » Il la regarda de plus en plus étonné de sa cruauté. « Je me réjouis, dit-elle, parce qu'il est écrit, « Le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Avec des larmes coulant sur ses joues, il répondit, « Oh, quel passage précieux de l'Écriture ! Et comment se fait-il qu'il vienne à moi avec tant de force ? Oh, madame, madame, je bénis Dieu pour cela. Alors il va me sauver. » Je remets mon âme entre ses mains. Il m'a pardonné. Il sortit de la maison. C'était un homme âgé. Il se sentit mal, tomba à terre et expira. Y a-t-il quelqu'un qui se sente perdu, qui se sache perdu par mes auditeurs ? Je m'en réjouis parce qu'il y a le pardon par l'effusion du sang de Christ. Croyez en son nom et vous ne pourrez être perdu. Mais je suis un tel pécheur. C'est justement pour cela qu'il est venu pour vous. Mais je ne le mérite pas. C'est justement pour cela qu'il l'a fait. Mais je l'ai haï. Mais, répond-il, je t'ai toujours aimé. C'est lui qui nous a aimés le premier. Mais je me suis moqué de ta parole, Seigneur. Tout est pardonné par le sang qui a coulé de mon côté. Crois en moi, donne-moi ton cœur et tu seras sauvé. Mais vous ne savez pas à qui vous parlez. « Je suis l'homme ou la femme, la plus mauvaise de la région ou le plus mauvais de la région. »« Quels que soient tes péchés, Christ est mort pour toi. Et si tu veux venir à lui, si tu veux te tourner vers lui pour être sauvé, il te délivrera et te recevra. » C'était un évangéliste qui parlait un soir de la grâce suffisante de Dieu. Le lendemain, un auditeur s'adressa à lui, pensant l'embarrasser. Avez-vous la grâce suffisante pour affronter le martyr ?
Non, monsieur, répondit l'évangéliste.
Et ne souhaitez-vous pas posséder la grâce nécessaire pour cela ?
Réponse : Mais non. La seule grâce dont j'ai besoin pour le moment, c'est la grâce suffisante pour les trois réunions que je me propose de tenir. Pour ce qui concerne l'avenir, je me confie en celui qui m'a dit « Ma grâce te suffit ».
Ne nous mettons donc pas en souci avec des préoccupations inutiles. Confions-nous en Jésus, qui nous secourra au moment nécessaire.
Robert Bruce, qui était roi d'Écosse de 1274 à 1329, le matin de sa mort déjeuna comme d'habitude avec un œuf. « Je crois que j'ai encore faim, dit-il à sa fille. Apporte-moi encore un. » Tandis qu'on le lui préparait, l'expression de son visage devint très sérieuse.
« Ma fille, s'écria-t-il, voici le maître qui m'appelle. »
Son regard s'était voilé. Il demanda sa Bible et pria sa fille de l'ouvrir au chapitre 8 des Romains. Comme il ne pouvait plus voir, il lui dit « Mets mon doigt sur ces mots. Je suis assuré que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. » Quand ce fut fait, il dit « Mon doigt y est-il bien ?»«
Oui, Père. » »«
Maintenant, que Dieu te soit en aide, ma fille. J'ai déjeuné avec toi sur la terre. Je souperai ce soir avec notre Seigneur Jésus-Christ. » Après avoir dit ces mots, il expira.
Copernic, qui a vécu de 1473 à 1543, qui a été l'initiateur de l'astronomie moderne. Lorsqu'il mourut, son corps fut déposé dans l'église de Warmick, en Pologne. Et sur une modeste pierre, on lit, en latin, l'inscription suivante. « Je ne demande pas le pardon accordé à Paul, et je n'espère pas la grâce donnée à Pierre. Je te demande seulement ce que tu as accordé aux brigands sur la croix. » Ces hommes croyaient en l'effusion du sang de Christ pour le pardon de leurs péchés et leur salut éternel. Enfin, dernière anecdote pour nous encourager dans notre marche pour suivre le Seigneur. C'était un voyageur à cheval qui un jour a eu besoin de faire ferrer sa monture et entra dans une forge. Avec surprise, il remarqua, suspendu au plafond, un curieux objet. C'était un violon, mais un violon qui avait triste allure. Il était recouvert d'une épaisse couche de suie et de poussière. Comment était-il arrivé dans cette forge ?
« Oh, il est là depuis longtemps, répondit le maréchal Ferrand, propriétaire de la forge, quand la question lui fut posée.
« Il m'a été laissé en paiement par un client de passage que je n'ai jamais revu. Si cela vous fait plaisir, prenez-le donc, je n'en fais rien. »
Le voyageur repartit donc avec le violon. Arrivé chez lui, il le nettoya avec grand soin et, étant musicien, il l'essaya. Quelle ne fut pas sa surprise en entendant la grande qualité de son produit. Ce violon offrait manifestement de grandes possibilités pour un musicien, à tel point que quand le grand violoniste Sarrasate l'acheta plus tard, il en fit son instrument préféré.
Qui aurait pu penser que l'instrument suspendu au plafond d'une forge et noir de suie pourrait un jour faire vibrer d'émotion les foules dans les grandes capitales ?
L'histoire de ce violon peut très bien résumer celle de nombreuses existences humaines. Combien de personnes sont désespérées parce que leur vie leur semble vide de sens ? Elles se sentent seules, inutiles, un peu comme ce violon délaissé qui risquait fort un jour de finir comme combustible dans la forge du maréchal Ferrand.
Mais ce violon allait trouver comme une nouvelle jeunesse. On allait bientôt prendre soin de lui, le transformer en un objet précieux qui réjouirait ceux qui allaient l'entendre. De même, à chacun est donné l'occasion de repartir dans la vie sur de nouvelles bases. C'est pour cela que le Christ est venu. Ceux qui recherchent en lui le pardon de leurs péchés trouvent aussi en Christ le sens profond et éternel de leur existence ici-bas. Ils réalisent alors que même la vie la plus humble est précieuse aux yeux de Dieu et qu'elle peut être, grâce à lui, totalement transformée et source de joie pour les autres. Mais pour expérimenter cette transformation, il faut remettre sa vie à Dieu dans une prière exprimant le profond désir de notre cœur et qui nous engage tout entier. Seul le Christ a le pouvoir de transformer une vie, car, dit la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Venez à Jésus dès aujourd'hui, sans plus tarder, pour être transformés à sa gloire ici-bas et sauvés pour l'éternité. Amen. Te remercions, Seigneur, pour l'œuvre de salut que tu opères et que tu veux encore parachever dans plusieurs vies parmi mes auditeurs, Seigneur, en particulier ceux qui ont besoin
de recevoir et de saisir cette grande et puissante vérité que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans l'effusion du sang de Christ, il n'y a pas de pardon. Mais avec l'effusion du sang de Christ, il y a un plein pardon. Et merci pour la grâce que tu veux ainsi leur manifester et que tu manifestes dans la vie de chacun qui s'engage ensuite résolument et de tout leur cœur dans ton chemin et dans ta bonne voie. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, mes amis, eh bien, ceci donc pour introduire nos annonces maintenant, qui vont être rapidement conclues aussi. Nous reprenons l'évangélisation dans les villages, samedi à 14h30, rendez-vous à l'église pour ceux qui veulent y participer. Les cultes se doivent se tenir le dimanche, donc à l'église aussi, à 8h30 et à 10h45. N'oubliez pas de vous inscrire sans plus tarder si vous pensez y participer. La réunion de prière du mercredi se tient également à 20h15, mais là, il n'y a pas besoin de s'inscrire. En tout cas, pour l'instant et pour la suite, que le Seigneur vous garde et vous fortifie en lui. Amen.